Reprendre encore cette série sur les sentiments du chrétien. Et parmi les sentiments du chrétien, peut-être vous avez connu celui-ci, c'est celui du désir de perfection. Et je pense que c'est quelque chose qui nous habite, en particulier nous les chrétiens. Il y a plein de belles places juste devant, si vous voulez, les derniers là-bas. Et pour cela, j'aimerais qu'on regarde ensemble un texte qui se trouve dans Philippiens au chapitre 3. Mais avant cela, j'aimerais vous poser la question, est-ce que vous connaissez Madame Parfaite? Pour la fête des mères, peut-être certaines. Je vais vous la décrire si vous voulez bien. Madame Parfaite, elle a une obsession, c'est que les autres la reconnaissent comme parfaite. Il va lui falloir travailler sans cesse à cette façade. Elle doit être la meilleure, ou au moins aussi bien que les meilleures. De sa tenue vestimentaire à sa coiffure, il n'y a pas de laisser-aller, tout comme sa maison d'ailleurs. Ses amis s'exclament, lorsqu'il lui rend visite, « Oh là là, mais combien d'aides ménagères tu dois avoir ?» Elle dit, « Non, j'en ai aucune. Aucune ne pourrait venir faire le ménage chez moi. Personne ne peut le faire aussi bien que moi. D'ailleurs, elle ne peut travailler avec personne. Parce que personne ne peut atteindre ses exigences. Elle a déjà essayé, mais à chaque fois qu'elle avait confié un travail à quelqu'un, elle a dû le refaire après. » Parce que ce n'était pas suffisamment bien fait. Quand elle reçoit pour dîner, elle en est malade une semaine à l'avance. Mais elle y fait face courageusement à cette situation. Elle veille à ce que tout soit parfait. Ses enfants seront confinés dans leur chambre et ne seront autorisés à porter leurs plus beaux habits qu'à l'arrivée de ses invités. D'ailleurs, elle agit de même avec son mari. Elle lui dépose ses vêtements sur le lit et il devra porter tous ses habits-là. Madame Parfaite, elle est très soucieuse de ne pas commettre de fautes devant les gens, en particulier. La dernière fois qu'elle a reçu, ça s'est très mal passé, en fait. En servant son somptueux dessert, parfait, elle a renversé la part de monsieur sur la nappe. Elle n'en a pas dormi de la nuit. En plus, quelqu'un à table avait fait cette réflexion, mais c'est pas grave, ça arrive à tout le monde. Mais c'est justement cela qui l'horripile. Elle n'est pas tout le monde. Et elle ne veut pas ressembler à tout le monde. Madame Parfaite ne demande jamais d'aide. Surtout si cette aide, cette demande, pourrait être perçue comme une lacune ou une faiblesse chez elle. De toute façon, elle fait les choses très bien, ou sinon, elle ne les fait pas. L'idée de rater ou d'être médiocre lui est insupportable. Lorsque les invités sont là, elle reçoit tous les compliments sur ses enfants, sa maison et ses talents de bonne cuisinière, et tous ces compliments équivalent pour elle, ah, tu es une bonne mère, une bonne épouse, tu es une bonne ménagère, donc tu es aimable. Madame Parfaite se fait un devoir de corriger les gens qui se trompent. D'ailleurs, à son travail, c'est la spécialiste dans ce domaine, elle voit les erreurs partout. Madame Parfaite ne connaît pas le repos. Du lever au coucher, mille et une tâches l'absorbent. La préparation des enfants pour la garderie ou l'école, son travail, les repas, le ménage, le lavage, le repassage, les devoirs des enfants. En fait, elle n'arrête pas. Que de fois son mari lui a dit « Mais tu en fais trop !» Et elle de penser « Si quelqu'un en faisait autant pour moi, je l'apprécierais au lieu de m'en plaindre. » Tout ce qu'elle fait, elle le fait pour se donner le sentiment d'être une personne formidable, irréprochable, et par conséquent, aimable. Ça, c'est la dame parfaite, madame parfaite. Mais il y a un monsieur parfait dans la Bible, c'est Philippiens, c'est l'apôtre Paul qui se décrit en Philippiens chapitre 3. J'aimerais vous lire les 14 premiers versets. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses et pour vous, cela est salutaire. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le huitième jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi pharisien, quant au zèle, persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ, et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Ainsi, je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Paul, c'est le... Il était, avant sa conversion, monsieur parfait. Il était meilleur que tout autre. Il était juif d'abord. Circoncis le jour qui va bien, selon la loi, c'est-à-dire le huitième. Issu de l'une des deux meilleures tribus d'Israël, resté fidèle à la dynastie de David, Benjamin. D'une des meilleures familles d'Hébreux qui soit. Le meilleur au regard de la loi, un perfectionniste, un pharisien. Le meilleur au regard de la loi, un perfectionniste. Le meilleur pour le judaïsme, en ce qui concerne le zèle, puisqu'il a même combattu à mort les hérétiques chrétiens. Il est irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Il faisait tout bien. Il faisait même tout très bien. Il était un perfectionniste. D'abord, je voudrais dire que je vous propose de regarder de plus près ce que c'est que le perfectionnisme. On verra ce que c'est que le parfait, et puisque qui est Paul. Le perfectionniste, tout d'abord, tout le monde n'est pas perfectionniste. Le perfectionnisme se développe là où on aime les choses les meilleures. Les perfectionnistes sont d'ailleurs, la plupart du temps, des gens plutôt bien moralement. Regardez Saul de Tarse, il était quelqu'un de remarquable sur le plan moral. Les pharisiens étaient plutôt des gens honnêtes, des gens droits, courageux. Ils formaient l'élite de la nation. D'ailleurs, le pharisaïsme s'est développé après le retour de captivité aux alentours de 150 avant Jésus-Christ, en réaction aux infidélités du peuple d'Israël. À cette époque, du début de l'ère chrétienne, au temps de Christ, eh bien, le pharisaïsme était à son sommet. Il n'y avait plus une seule idole en Israël. Ils avaient été vaccinés. Maintenant, il n'y avait que le temple, il n'y avait que la loi qui était enseignée. Et puis, on devait le faire avec le plus d'application. Le perfectionnisme, c'est un danger qui ne guette que les gens qui aiment le bien. Si vous voulez échapper au perfectionnisme, Il vous suffit de descendre dans les bas-fonds de notre société, là où plus rien ne bride les passions des hommes. C'est pourquoi les chrétiens qui ont le désir de mener une vie pieuse, une vie proche de Dieu, peuvent être sujets au perfectionnisme. Le perfectionnisme, pourtant, est une pourriture qui gâte le meilleur des fruits. Le perfectionnisme ou le pharisaïsme n'est pas une corruption ordinaire. C'est la moisissure du plus noble fruit que la terre n'ait jamais porté, à savoir la piété. Les cercles qui courent le plus grand danger de tomber dans le pharisaïsme ou dans le perfectionnisme sont les milieux dans lesquels les choses les meilleures sont connues et recherchées et exaltées. Paul dira, pour lui, après avoir vécu ce perfectionnisme, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, toute ma perfection, toutes mes lois, tous mes efforts, je les ai regardés comme une perte à cause de Christ. Je les ai regardés comme de la boue afin de gagner Christ. Le mot pour boue ici, il est terrible. Il peut être traduit par déchets, crottins, fumier, excréments. Voilà ce que considère Paul de tout son perfectionnisme. Certes, la moisissure ne se développe que là où il y a du fruit. Si vous ne voulez pas de moisissure, n'ayez pas de fruit. Mais entre un fruit pourri et l'absence de fruit, reconnaissons que la différence n'est pas bien grande quand même. Le perfectionnisme, il fait souffrir. Il fait souffrir celui qui est perfectionniste. Et puis il fait aussi souffrir son entourage. Il est tellement exigeant pour lui-même. Il a des standards toujours plus élevés. Il s'applique et applique aux autres des lois toujours plus strictes. Et le problème, c'est que n'arrivant pas à satisfaire ces lois, il souffre d'échouer. Alors il se constitue de nouvelles lois pour essayer d'atteindre à nouveau ces lois. Il est encore esclave de ces lois. Ah, il souhaite être trouvé parfait, mais chaque jour, il se révèle ne pas l'être. Dans un petit détail, une broutille, mais ça l'empêche de dormir. Ça l'empêche de se réjouir. Et quand il y parvient dans un domaine, eh bien, il se trouve toujours un de ses enfants qui ne l'est pas pour porter atteinte à sa belle image de père. Tout était parfait, et puis au dernier moment, il a mis son doigt dans le nez. C'était terrible. Ah, je lui ai dit 10 fois, 100 fois de ne pas le faire. Il est blessé, il est meurtri, parce que c'est un mauvais père, une mauvaise mère. Il a mal éduqué ses enfants, mais pas ses doigts dans le nez quand on est à table avec les invités. C'est son identité qui est en jeu. C'est cela qui le fait souffrir. Le perfectionnisme est en fait de l'orgueil spirituel. Le perfectionniste cherche sa justification dans ce qu'il fait. Il pense avoir l'approbation de Dieu et des hommes au travers de la perfection de ses réalisations et de ses œuvres. Le perfectionniste chrétien, il est tellement conscient que ce qu'il fait, c'est pour Dieu, que ce qu'il fait doit être parfait parce que Dieu est parfait. Il ne peut pas faire moins. Mais Dieu n'est pas comme ça. Le perfectionniste pense que c'est sa perfection qui le rend aimable. Aux yeux des hommes, parfois de ses parents, ou aux yeux de Dieu. Le perfectionnisme, en fait, n'a pas besoin de Jésus-Christ parce que il est presque parfait. En tout cas, il vise tellement la perfection que c'est la manifestation de notre propre chair, en fait. Et c'est cela qui horrifie Dieu. Notre chair, ici, elle ne veut pas mourir, la chair du perfectionniste. Elle ne veut pas mourir. Elle ne veut pas se condamner. Elle ne veut pas reconnaître qu'elle ne mérite que la mort. Pourquoi ? Mais avec tout ce qu'elle a fait, avec tout ce qu'elle a souffert, avec tous les mérites, la fidélité qu'elle a montrée au fil de toutes ces années, elle ne veut pas mourir. Et c'est ce qui la rend détestable. Au contraire, parce que, en agissant ainsi, elle rejette Jésus-Christ et son sacrifice. Dieu veut juste la voir mourir pour voir en même temps se développer la nature de Christ en nous. Les perfectionnistes agissent comme s'ils étaient, entre guillemets, égaux à Dieu. Ils pensent pouvoir combler leurs propres besoins. Ils cherchent à agir parfaitement comme Dieu. Ils cherchent à tout contrôler comme Dieu. Au moyen d'efforts personnels, ils essayent d'accomplir ce que seul Jésus-Christ peut faire en eux et au travers d'eux. On a parfois tendance à penser que la chair, ce sont les mauvais désirs relatifs au corps, les pensées ou les attitudes sensuelles, et de ce fait que la sanctification consisterait presque entièrement à faire la guerre à ses péchés. Mais l'Écriture décrit par la chair l'homme tout entier, corps et âme, y compris les péchés spirituels, l'orgueil, l'autosatisfaction. Voilà ce que Paul appelle la chair. Il dit, si quelqu'un peut se confier dans la chair, je le puis bien davantage. Il n'est pas question ici de corruption, de péché graveleux ou je ne sais quoi, non. Il est en train d'ici de condamner sa chair en disant, moi je suis parfait. Moi je me crois meilleur que les autres. Il y avait ce pharisien qui est décrit en Luc chapitre 18. Et il est monté pour prier, puis il dit, ah Seigneur, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Sympathique pour les autres. Vous voyez ce que c'est un perfectionniste? Il pense être au-dessus du lot. La réalité, c'est que nous sommes comme le reste des hommes. C'est cela la réalité. On a la même chair. On est fait de la même pâte que les autres hommes. Et on connaît les mêmes difficultés et les mêmes passions qui combattent dans nos membres que les autres hommes. Quelle passion déchaîne l'affaire DSK? Tout le monde a son point de vue sur Dominique Strauss-Kahn et ses agissements. En fait, c'est Dallas. Mais en réalité, quoi, en vrai, pour de vrai, c'est la télé-réalité à la française, mais avec les caméras d'Hollywood. Alors c'est super. Il y a le pouvoir, l'argent, le sexe. Et c'est étonnant que tout le monde sur ces choses a un point de vue. Et je pensais que nous sommes tellement intéressés par cette affaire parce que c'est notre propre histoire qui se joue quelque part. Les mêmes passions combattent dans nos membres. Le pouvoir, l'argent, le sexe. La seule différence peut-être avec DSK, c'est le niveau de pouvoir, de déviance sexuelle et les niveaux de d'argent. Aucun chrétien ne sera jamais satisfait ici-bas. Jamais aucun chrétien n'atteindra la perfection ici-bas. Jamais aucun chrétien pourra se permettre de dire « c'est bon, j'en ai fini avec le péché ». Jamais aucun chrétien ne pourra dire une chose pareille, parce que la perfection viendra seulement après la rédemption, avec la rédemption de notre corps. Jean y rappelle dans sa première épître, chapitre 1, versets 8 et 10, « Si quelqu'un dit qu'il n'a pas de péché, il fait juste Dieu menteur. » Alors, voilà le perfectionniste. Quel est le parfait maintenant ? Le parfait, c'est Dieu seul. Dieu seul est parfait. Dieu seul est parfait. Dieu seul ne change pas et il ne peut ni baisser dans ses qualités, ni s'améliorer. Il est parfait. Il n'a pas de haut ou de bas, non. Il l'a toujours été et il le sera toujours. La volonté de Dieu, la Bible dit, la volonté de Dieu est parfaite. La loi de l'Éternel est parfaite. Les œuvres de Dieu sont parfaites. Les voies de Dieu sont parfaites. L'amour de Dieu est parfait. Si nous voulons plaire à Dieu par nous-mêmes, Jésus a dit, soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Waouh ! Cette parole résume les demandes de la loi. La loi demande la perfection. Vous voulez plaire à Dieu par la loi ? Alors respectez-la à la perfection. Dieu ne demande pas moins. Et on se rend bien compte que Christ ici, il a établi une norme inaccessible. Bien qu'elle soit impossible à atteindre, Dieu ne va pas abaisser la barre. Puisqu'il est parfait, il ne peut pas être moins que parfait. Et ses normes ne peuvent pas être moins que parfaites. Celui qui est parfait ne pouvait pas établir des principes de justice imparfaits. Et donc, la merveilleuse nouvelle que l'on trouve dans l'Évangile, c'est que nous pouvons nous attribuer la justice parfaite accomplie par Christ à notre place. L'Évangile est justement parfait parce qu'il peut permettre à l'homme le plus coupable de connaître la gloire et le bonheur éternel les plus parfaits, en satisfaisant entièrement la justice parfaite de Dieu. C'est cela qui est extraordinaire dans l'Évangile. Dieu peut déclarer juste le plus grand des coupables, tout en ayant une justice parfaite. Et comment c'est possible ? Dans l'œuvre de Jésus-Christ. Christ, le parfait, est venu prendre notre place à la croix et recevoir notre condamnation. De sorte que nous pouvions être trouvés justes devant Dieu parce que Christ est mort pour nous. Examinons un instant l'apôtre Paul à présent. Quand Paul a-t-il cessé d'être perfectionniste ? Il a cessé d'être perfectionniste quand il a renoncé à vouloir établir sa propre justice devant Dieu. Et lorsqu'il s'est confié dans la justice de Dieu qui lui est imputée par la foi en Jésus-Christ. Ça, c'est le verset 8 et 9. Et même je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Il a renoncé à toutes ces choses. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, en Christ, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, celle que je me suis tellement efforcé de mettre en évidence, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu cette fois-ci, par la foi. Il a échangé le perfectionnisme de ses réalisations humaines contre la connaissance, contre la justice, contre la puissance, contre la communion et contre la gloire de Jésus-Christ. Cette perfection qu'il recherchait à établir par ses propres œuvres, il l'a obtenue en Christ par la foi, simplement. C'est incroyable. Le perfectionniste, il fait tellement d'efforts. Il se confie dans tous ses efforts, dans tous ses mérites, et puis il passe à côté, et il n'y arrive pas, et puis il passe à côté de l'œuvre parfaite de Jésus-Christ. Mais une question peut-être peut nous tarauder, c'est celle qui vient après. Mais alors pourquoi Paul court-il? Il dit au verset 12, « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. » C'est bizarre. Il dit, tu ne seras jamais parfait. Tu seras parfait quand Christ reviendra et il te mettra sa perfection. Hein, il y a Philippiens, toujours dans le même livre, au chapitre 1, verset 6, il dit, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Il dit, tu seras parfait au ciel. Tu ne seras jamais parfait ici-bas. Et quoi que tu fasses, tu ne seras jamais parfait ici-bas. Alors, pourquoi courir alors? Pourquoi s'efforcer? Pourquoi essayer de rechercher ce qu'il y a de meilleur? Il court après le prix, mais quel est le prix? Le prix, c'est la ressemblance avec Christ. Mais nous ne serons comme Christ que lorsqu'il nous prendra avec lui. À quoi bon courir si nous ne l'atteindrons jamais? C'est inutile, puisque quoi que nous fassions, nous ne serons jamais parfaits seulement au jour de Jésus-Christ. J'aimerais essayer de répondre à cette question. Quand une épouse va au-devant de son époux qui rentre d'un long voyage. C'est complètement inutile. Parce qu'elle va quitter chez elle, elle va prendre le métro, aller jusqu'à la gare, là elle va accueillir son mari, et puis ils vont reprendre ensemble le métro et remonter dans l'immeuble. Le mari, ça ne l'a pas franchement aidé, il a quand même porté ses valises, il a quand même pris le métro, il est quand même remonté jusqu'à l'immeuble. Et elle, elle aurait pu aussi bien rester chez elle, n'est-ce pas? C'était inutile. Et on comprend bien que non. On comprend bien que ce n'est pas inutile. Mais oui, mais il a quand même dû faire tout le travail, il a dû faire tout le voyage. Et ça ne l'a pas... Mais ça n'est pas inutile. Dites-le à l'épouse. Elle dira, c'est simplement impensable pour moi de ne pas faire autrement. Je l'aime. Et tous mes efforts, c'est la démonstration de mon amour pour lui. C'est l'amour qui fait la différence. Si je ne l'aimais pas, bien sûr, je resterais chez moi. Je préférerais le voir le plus tard possible. Mais je l'aime. Et c'est pour ça que je fais tous ces efforts-là. Le cadeau de la fête des mères. Parlons-en pendant que les petits ne sont pas là. Confectionné avec les nouilles. Est-il inutile? Va-t-il révolutionner la vie des mamans? Leur vie matérielle? Probablement pas. Mais est-il inutile? Certainement pas. Parce qu'il est la démonstration de l'amour des enfants, de leur reconnaissance envers leur maître, leur mère. Avec le maître aussi. C'est cela qui fait la différence. C'est l'amour. C'est cet amour qui nous presse. C'est cet amour-là qui nous pousse à chercher à être conforme à Christ en toute chose. Nos yeux ne sont pas sur nous pour savoir comment les autres nous considèrent. Nos yeux sont sur Christ à qui nous voulons ressembler et que nous aimons, que nous attendons. Paul, il aspire à la perfection. Il dit, c'est pour cela que Christ l'a saisi. Puisqu'il dit, puisque moi aussi j'ai été saisi par Christ. Il dit, Christ, c'est lui qui m'a saisi, c'est lui qui m'a choisi, qui m'a attrapé, qui m'a sauvé. Et il m'a sauvé pourquoi? Mais pour que j'atteigne cette perfection. Donc je cours parce que moi-même j'ai été saisi par Christ. Il sait qu'il ne l'atteindra pas de son vivant, mais il veut poursuivre Christ de toutes ses forces parce qu'il l'aime. Il veut lui ressembler. Paul, il est conscient, et c'est cela la différence entre un perfectionniste et Paul. Paul est conscient. Au verset 12, il dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. Il n'est pas encore arrivé, il le sait. Le perfectionniste, il agit comme s'il avait déjà atteint la perfection. Et il cherche à en faire la démonstration aux yeux de tous. Mais Paul, lui, il est insatisfait de sa situation, de son état spirituel. Peut-être vous avez vu combien vous êtes encore pécheur durant cette semaine passée. Et peut-être même, quelque part, ça vous écœure de vous-même. Vous dites, comment un enfant de Dieu peut faire une telle chose? Comment un enfant de Dieu peut-il penser une telle chose? Ou avoir une telle parole? Ça vous fait frémir. Vous aussi, vous êtes conscient alors que vous avez besoin de la grâce de Dieu pour progresser. Ma prière pour vous alors, c'est que cette pensée ne vous quitte pas un seul instant jusqu'à la mort. Nous ne progresserons pas autrement que par la grâce de Dieu. L'apôtre Pierre dit, croissez dans la grâce et dans la connaissance de Jésus-Christ. La croissance ne peut provenir que de la grâce de Dieu. La loi ne peut amener personne à la perfection spirituelle. Elle ne l'a pas fait pour Saul de Tarse. Elle ne le fera pour aucun d'entre nous. Mais Paul ne s'arrête pas non plus à ce constat. Il dit, verset 12, la deuxième partie, « Mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. » Il se voit comme un athlète pour se préparer pour les Jeux Olympiques. Et là, il fait tous ses efforts pour tendre vers le progrès. Il s'entraîne pour progresser. La devise olympique lui convient bien à Paul, Situs Altius Fortus, c'est du latin, hein, qui signifie plus vite, plus haut, plus fort. Aux Thessaloniciens, il dira, nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher de progrès en progrès. C'est cela. Entrer dans cet effort, mais dans cet effort conscient de la grâce de Dieu. Et puis Paul se concentre sur ce qui est devant lui. Ça, c'est le verset 13 qui dit cela. Frère, j'aime cette... Il ne s'adresse pas à des incroyants, hein. Il dit, frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours. Je cours vers le but. Le perfectionniste regarde toujours en arrière. Quand il a bien fait, il aime bien regarder en arrière. Parce que ça le valorise. Quand il a mal fait, il regarde quand même en arrière, mais il se morfond, il dit « c'est pas possible, j'y arriverai jamais. » Et puis c'est la catastrophe. Mais celui qui poursuit Christ, il oublie ce qui est en arrière. Les victoires du passé, il les oublie parce que ce n'était pas le but. Il n'est pas arrivé avec ça. Le but, c'est Christ. Et puis les échecs du passé, eh bien, il vient les confesser à Jésus-Christ qui les a portés en croix, qui a reçu sa condamnation, qui lui rappelle « Marche, mon enfant, marche dans ma grâce, je t'aime quand même, je t'ai aimé avant que tu sois mon enfant. Alors marche, marche dans la grâce et avance de progrès en progrès. » Et alors maintenant, Paul se porte vers ce qui est en avant. Il a les yeux sur Jésus-Christ et il ne fixe que Jésus-Christ. Peu lui importe ses frères, dans le sens s'ils font bien ou s'ils font mal, dans le sens où il ne va pas se comparer ou se justifier vis-à-vis d'eux, mais il s'applique à ressembler à Jésus-Christ de tout son cœur. Si vous êtes Madame Parfaite, vous êtes triste. Si vous êtes Monsieur Parfait, vous êtes triste. Il vous manque quelque chose. Mais si vous décidiez d'être comme Paul et de dire « Ok, toutes ces affaires-là, c'est de la boue. Je veux saisir Christ. » Lui seul a de la valeur dans ma vie. Lui seul vaut le coup d'être poursuivi de tout notre cœur. Faites-le avec la force qui provient de la croix qu'on trouve en Jésus-Christ. Faites-le humblement tous les jours de votre vie et jusqu'à son retour. Prions.